France Inter. Bonjour à toutes et à tous. Qui dit vendredi matin dit la bande indisciplinée et gourmande de grand bien vous fasse. Il et elle aiment manger, parler de nourriture terrestre et autres et transmettre comme nos deux invités du jour. Bonjour Jonas Parianté et Mélodie Da Fonseca.
Bonjour
à toi les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mélodie Da Fonseca, vous êtes illustratrice, réalisatrice de films d'animation 2D et de vidéos en motion design. Et sur votre CV, il y a aussi un court-métrage documentaire réalisé un peu à la demande de Jonas Parianté. Jonas, vous êtes réalisateur et producteur, vous avez créé votre agence Chai Chai et vous êtes à l'initiative du projet Grandma Project. C'est une web-série au départ qui est devenue et qui est maintenant un livre de cuisine et pas seulement. Bienvenue à tous les deux au milieu de cette bande que je suis heureuse de vous présenter. Bonjour Olivier Pourriol.
Bonjour.
Il sera question de philosophie grâce à vous et le mot de transmission, sera un peu quand même au cœur de votre chronique.
Un peu carrément, transmission esthétique.
Transmission esthétique.
Ouais.
Et empathie. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Eva.
Votre ami du jour n'a rien à voir avec la cuisine.
Non, mais moi c'est de la transmission comique.
Ah ben oui, c'est vrai.
Voilà.
Et du cœur aussi.
On
est d'accord. On verra tout à l'heure de qui il s'agit. Sandra Colombo, bonjour.
Bonjour.
Quel est le thème de votre chronique Mauvaise Langue?
Eh bien, je vais vous démontrer pourquoi un gratin peut faire basculer un destin.
Oh là, un destin national.
Ouais, exactement.
Vrai. Et bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour.
Vous allez nous donner envie de plonger dans un polar dans quelques minutes. On va vous donner la parole. Et enfin, le chef, Grégory Cohen. Bonjour Grégory.
Ah, bonjour Eva Roque.
Est-ce qu'il sera question de votre grand-mère ce matin?
Il sera question de ma grand-mère, maman Fanny, qui était une très mauvaise cuisinière, mais qui savait réussir un gratin. Et je vais vous faire la recette aussi de ce gratin.
Un gratin à quoi?
Un gratin d'endives béchamel, exceptionnel.
Bon, vous avez intérêt à me convaincre parce que c'est pas le plat que je préfère.
Vous allez voir.
Nous sommes le 7 mars, vous écoutez France Inter et bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Eva Rock.
Tu mets beaucoup plus de vie que moi. Mira, lo cortas así.
Regarde, tu vas les mincer comme ça. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Mais tu ne soulèves pas cette partie. Sinon, il se délite. C'est la première fois qu'on cuisine ensemble. C'est pour ça que tu ne sais pas cuisiner. Invite-moi à manger chez toi. Mais avant de cuisiner. Il y avait un ruisseau qui passait pas loin. Il y avait toujours assez d'eau pour qu'on y lave notre linge. On y allait parce que l'huile flottait au-dessus. Alors, on partait avec une cuillère et on récupérait l'huile de la rivière, du ruisseau qui passait tout près. Qu'est-ce que tu crois? On ouvrait la porte du frigidaire?
Non, je me doute.
On vient d'entendre un extrait de votre documentaire Mélodie Da Fonseca, un film dans lequel on vous découvre avec Juana, votre grand-mère. Elle est en cuisine, elle est en train de préparer une tortilla. À vous donner envie de lécher l'écran, on va pas se mentir. Mélodie Da Fonseca, qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite cuillère et d'huile?
Alors, je l'ai appris quand on était en train de faire le film, toutes les deux. C'est une anecdote et pourtant, je connais bien l'histoire de ma grand-mère. On passe du temps à se raconter nos vies. Et là, tout d'un coup, elle me raconte ça en plein milieu du tournage. Et c'est ça, elle raconte que elle vient d'une famille très modeste, pauvre, de son petit village en Espagne, Aldanueva de San Bartolomé, 300 habitants. Et puis petite, elle allait à la rivière récupérer l'huile. Sa mère lui disait va chercher l'huile. Et elle le ramenait à la maison pour qu'il puisse cuisiner avec.
C'est incroyable, c'est vraiment un passage extrêmement émouvant. Votre grand-mère, elle avait quel âge au moment du tournage?
Ma grand-mère, quand on a tourné le film, elle avait 80.
Ouais. 80, ouais. Et là elle a 83 ans. Donc c'était pas la première fois que vous parliez d'elle, de ce passé-là, en fait. Vous aviez l'habitude déjà de converser, mais là tout d'un coup il s'est passé quand même quelque chose en cuisinant, quoi.
Exactement, ouais. En cuisinant, et grâce à Grandma's Project, je me suis dit voilà, c'est le moment, je vais faire un film sur ma grand-mère. Mais depuis toujours, je la dessine, je l'enregistre, je fais des photos d'elle. Et là, c'était vraiment l'excuse pour garder un moment de mémoire, un moment de, d'histoire de cette dame incroyable. Et je pense que le fait de faire un film sur elle, ça l'a mise en lumière. Et ouais. Ça lui a permis de raconter des choses qu'elle... Pas tout ce qu'elle nous avait jamais dit.
Et c'est un peu le leitmotiv de tous les films de ce projet Grand Ma Project. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces femmes, elles se libèrent aussi d'une parole. Bon, là, on leur a pas souvent tendu un micro, ou pas du tout même. Hein. On va en reparler, évidemment. Mélodie da Fonseca, effectivement, ce film, vous l'avez réalisé dans le cadre d'un projet baptisé Grand Ma Project, dont vous êtes l'initiateur, Jonas Parienté, à savoir une collection de films d'à peu près 8 minutes chacun, que l'on peut découvrir gratuitement sur le site grandmaproject.com. Et à chaque fois, il s'agit d'une rencontre, celle d'une cinéaste avec sa grand-mère dans une cuisine, le temps de réaliser un plat qui raconte surtout quelque chose de son histoire et de leur histoire commune. On est bien d'accord ?
Absolument. Et c'est parti de ma propre expérience en fait avec mes grand-mères. Un peu comme Mélodie, j'avais passé déjà pas mal de temps à les filmer, à squatter leur cuisine, à juste converser avec elles. Puis un jour, j'ai sorti la caméra, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était vraiment le lieu et aussi la pratique qui me permettait d'aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, à un moment, j'avais même imaginé les interviewer vraiment assises avec la caméra sur le pied. Et en fait, c'est un exercice pour le coup où elles ne se livraient pas tant que ça. Et c'était oui. Un peu intimidant. Même moi, j'étais un peu mal à l'aise d'interviewer mes grand-mères. Alors qu'en fait, au-dessus de la marmite, c'était tout naturel. Et de cette expérience personnelle, j'en ai fait un projet plus collectif.
Voilà, on va y revenir. Et surtout que ce projet collectif, eh bien, c'est devenu un livre de cuisine. Alors, je dois vous dire la vérité. D'abord à la bande, évidemment, de Grand Bien vous fasse, mais aussi aux auditeurs et aux auditrices. Jonas, on se connaît. C'était, je pense, en 2018 ou 2019. J'ai pas la date en tête. Je vais vous interviewer pour la naissance de ce projet. On est resté en contact. Et puis, il y a quelques mois, vous m'avez appelé pour savoir si j'étais d'accord pour partager une recette pour ce livre. J'ai accepté, à la seconde d'ailleurs. J'étais tellement heureuse de transmettre un plat que faisait ma grand-mère maternelle et que fait ma mère aujourd'hui, à savoir la pisse saladière. Bon, les gens savent que je suis du Sud, donc c'est pas étonnant.
Il faut comparer avec... Oh là là,
oui,
avec
voilà, il faut qu'on en parle. Je précise que je n'ai pas été payée et que je ne touche rien sur la vente des livres, au cas où quelqu'un me demanderait. Mais je trouve, et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui sur l'antenne de France Inter, que cet acte de transmettre une recette très personnelle procure une telle joie que j'avais envie qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a ce truc-là qui fait qu'on a envie de partager. Donc je vous montrerai ma photo avec mes grands-parents tout à l'heure si vous êtes sage. Jonas Parienté, on est d'accord, vous avez posé une question aux cinéastes qui ont accepté de tourner avec leur grand-mère, c'est si tu ne devais retenir et transmettre qu'une seule recette de ta grand-mère, laquelle ce serait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que cette recette raconte de ton histoire familiale et de ton rapport à cette histoire ? On est d'accord ?
On est totalement
d'accord.
Ils sont
tous partis avec le même brief.
Ouais, exactement.
Le même brief. Mais au fond, c'est quoi ? C'est que la recette, elle devient finalement qu'un vecteur, un lien entre deux personnes, et puis la cuisine devient une sorte de confessionnal ?
En fait, ce que j'ai adoré faire à travers ce projet, c'est de découvrir qu'en fonction des personnes, en fonction des familles, c'est pas tout le temps la même réponse. Il y a des gens pour qui la recette est vraiment un personnage, presque, tandis que pour d'autres, c'est des grand-mères qui cuisinent pas tant que ça, ou pas si bien, et les réalisateurs ou les réalisatrices s'en sont saisis pour raconter ça. Des recettes ratées permettent de dire ma grand-mère, elle a transmis d'autres choses, mais malgré tout, il y a quand même, on ne perd jamais la dimension culturelle, la racine. En fait, même des grand-mères qui sont devenues des intellectuelles, des femmes engagées, etc., bah, ça leur permet de dire pourquoi j'ai refusé en fait, l'injonction à cuisiner, et à l'inverse, ou alors, par exemple, je suis d'une famille, disons, autrichienne, et cette recette-là, j'aurais voulu la transmettre, mais parce que j'ai jamais cuisiné, bah, vous connaissez même pas les plats de mon enfance.
Ouais. Grégory, je vous vois écouter de façon extrêmement attentive.
Bah, j'adore, parce que c'est vrai que la cuisine, la base de la cuisine, c'est la transmission, et que toute cette cuisine-là, c'est une cuisine qui est une cuisine maternelle principalement, donc les grands-mères, évidemment, il y a tellement d'anecdotes sur les grands-mères. Moi, ma grand-mère était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très mauvaise cuisinière, et elle trouvait toujours une excuse exceptionnelle, c'est-à-dire que c'était toujours beaucoup, beaucoup trop salé, mais elle me disait, c'est parce que je suis amoureuse, elle brûlait les plats, et elle disait, parce que je pensais à toi, mon chéri, et d'un seul coup, j'ai oublié, mais ça fait des souvenirs qui sont exceptionnels, c'est-à-dire que le plat soit bon, ou moins réussi.
Oui, on s'en fout en fait.
En réalité, c'est elle qui compte. Et c'est une partie de cet amour qu'elle nous a transmis. Quand on dit qu'en cuisine, il y a de l'amour, là, pour le coup, c'est vrai. Hein.
On va faire un tour de table tout à l'heure. Vous allez me dire un peu quelle est la recette que vous retenez ou qui s'est transmise dans votre famille. Mais pour l'instant, il est 10h15 sur France Inter et il est l'heure de partir pour les îles. Parce que oui, Christine Fernioux, vous arrivez ce matin avec dans les mains un excellent polar qui se passe dans les îles Marquises.
J'ai cru que vous alliez dire, et vous revenez directement des îles Marquises. Ben pas du tout, malheureusement.
Ah, vous auriez aimé.
J'aurais beaucoup aimé.
Oui. Mm-hmm.
Et même après avoir lu ce livre, ce roman noir qui montre l'envers du décor des Marquises, eh bien, j'irais bien comme Marin Le Dain qui a écrit donc ce livre qui s'appelle Enoua, qui se passe dans ces îles. Et c'est à la fois un voyage absolument magnifique et d'une noirceur terrible. Mais ça ressemble à Marin Le Dain parce que lui, il n'aime pas trop raconter des histoires de cartes postales avec des couleurs, des tatouages comme on a sur la couverture ou des jolies jeunes filles. Il a déjà fait ça avec des romans noirs autour du lobby du tabac, ça s'appelait Le Rameau Diable, c'était formidable, ou celui de la bière et du ravage du marketing avec Free Queens, qui était un livre aussi formidable. Et cette fois, donc, on va plus loin avec cette jeune femme très belle, tuée dès les premières pages. Elle s'appelle Payotoka, je l'ai bien dit. Je me suis exercée dans le métro avant de venir.
En plus, il n'y a personne qui viendra vous dire que vous le dites mal, hein, parce qu'on ne sait pas, donc c'est pas grave.
On ne sait jamais si l'auteur entendait quelque chose.
C'est vrai, on est d'accord. Vous avez raison, Christine.
Les auteurs de romans noirs, je m'en méfie. Et donc, elle a été tuée sur les terres rouges, on le sait depuis le début. Mais tout ça, ça nous permet, avec Marin Le Dain, de comprendre ce qui s'est passé et où ça s'est passé. Parce qu'il y a deux flics, une femme du pays et un lieutenant de police qui s'appelle Tepano et qui a un demi, c'est-à-dire fils de marquisienne et fille d'un métropolitain. Et ils découvrent, un peu comme nous, le pays des îles Marquises et on le voit à travers ses yeux. Et Marin Le Dain, c'est ça qui est bien, c'est qu'il nous ouvre les yeux, il nous raconte une histoire et un pays, et il nous fait comprendre tous les effets de la colonisation, le suite des essais nucléaires, la pauvreté qui mène à l'alcool et à la drogue, ou le contraire, et puis un mépris de l'écologie dans ce pays magnifique, et l'oubli de la culture ancestrale, et c'est une partie de son travail aussi de faire ça. Alors, c'est pas du tout un essai, c'est un roman, mais c'est un roman palpitant, émouvant, mais c'est surtout un très très bel hommage à la dignité des îles Marquises. Je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Brel qui dit dans sa chanson Marquise, veux-tu que je te dise, gémir n'est plus de mise aux Marquises. Et on sent que l'auteur a adoré ce pays, qui veut nous le faire comprendre et aimer, et nous montrer son inquiétante étrangeté. Moi, je suis bouleversée par ce livre.
Ça se
sent, je trouve que Marin Le Dain, il réussit toujours ça. Et dans ce livre-là, il nous transporte et en même temps, il nous inquiète.
Ça s'appelle Enoua, c'est ça, je le prononce bien.
Bravo.
De Marie Le Dain, et c'est chez Série Noire. On vous remercie beaucoup, Christine Fernioux, pour ce conseil. Polar, nous allons repartir en cuisine dans quelques minutes, mais on continue à parler de transmission, car c'est au tour de Guillemette Odissido de nous transmettre son coup de cœur pour un ami du jour.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger, et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Et on l'aime beaucoup, cette amie du jour, Guillemette.
Ah oui. Alors, chère Eva, vous avez regardé la cérémonie des Césars ?
Bien sûr, mais oui.
Ah bon, j'avais dit dans ma chronique, il y avait non.
Ah bon, c'est pas grave. Pardon, non.
Alors non, vous l'avez pas regardé. Mais donc, vous l'avez pas regardé. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, sauf que vous avez manqué la star de la soirée. Alors non, pas Julia Roberts, même si son sourire reste un phénomène naturel qui pourrait encore faire croire que l'Amérique est notre amie. Non, la vedette, je choisis ce terme un peu désuet à dessein, c'était Franck. Alors pas Franck Sinatra, hein, pas Franck Zappa, Franck Dubosc. C'est simple, mon Franck a sauvé la cérémonie avec son sketch génial autour du Césario qu'il recevait comme acteur, jamais nommé au César. Autant d'autodérision chic et de lucidité sur sa place, un peu dédaignée dans le cinéma français, c'était fabuleux.
Un mot pour Madame Roberts. Je ne sais pas si vous avez l'honneur de me connaître, mais voilà. How can I explain? Comment je pourrais dire? Je traduis. You see, George Clooney. You see, Pianine, I'm a pill in the middle.
Alors, il est pill in the middle, oui. Et mieux, quand il est revenu en hurlant, un chef opérateur, c'est quoi? En prenant le ton snob de certains remettants, je pense que beaucoup dans la salle de l'Olympia ont fait carrément pipi dans leur culotte de créateur. Franck, voyez-vous, c'est le type simple et sympa avec lequel on était potes dans notre collège de province. Dont on a un peu honte ensuite, parce qu'il se balade en slip moulant au camping et fait des blagues sur la quéquette. N'empêche, pendant qu'on continuait bêtement à se demander si on pouvait se vanter de notre affection pour lui, bah le mec, lui, contrairement à nous, évoluait. Jusqu'à être le plus intelligent de la soirée, la plus collée, serrée de l'année. Le parcours de Franck donne envie de croire à l'avenir, enfin les quelques secondes qui nous restent avant la Troisième Guerre mondiale. Ce Normand, fiston d'un employé de douane et d'une fonctionnaire de mairie, qui n'a connu la célébrité en France qu'à 37 ans, rêvait de devenir comédien en regardant Les Mystères de l'Ouest le samedi après-midi dans le salon de son HLM de banlieue à Rouen. Il a commencé par être le pilote du vaisseau des frères Bogdanov dans leur émission Temps X, puis a été assistant de magicien, où il se faisait couper en trois. Alors, j'étais l'équivalent de l'assistante en robe lamée, a-t-il raconté avec sa manière éternelle de ne pas se prendre au sérieux.
Ouais, sauf que votre ami Franck, eh bien, ce métier, il a pris très au sérieux.
Oui, en faisant justement tout, vraiment tout, pour y arriver. Alors comme il avait étudié l'anglais à la fac, il est parti outre-Manche et a décroché un rôle de French Lover dans le très très regardé soap-opéra britannique Coronation Street, qui lui valait des sacs entiers de lettres de fans par semaine. Il est même devenu reporter politique pour l'émission Europe Express sur Channel 4. Alors, ce qui est magnifique de la part d'un type qui pendant très longtemps a cru que Dominique Strauss-Kahn était une femme. Alors, pas con en même temps, Franck, parce que si Dominique avait été une femme, bah, ce serait rien passé au Sofitel de New York. Mais c'est en France que mon ami voulait devenir une vedette. Alors, il a fait le clown chez Laurent Ruquier. Il a joué des one-man shows. Il s'est baladé en slip dans camping. Et puis doucement, ces derniers temps, derrière ses airs de beau frimeur de comédie, il a prouvé combien il était romantique avec sa première réalisation Tout le monde debout et bon réalisateur avec le très noir et caustique Un ours dans le Jura. Il y a plusieurs années, on lui avait proposé de remettre une statuette à la cérémonie des Césars. Il avait poliment décliné, je le cite, « Je me serais sentie gênée. Imaginez Audrey Tautou m'aurait fait la bise pour prendre son machin tout en pensant « Tain !» Je l'aurais peut-être qu'une fois le César, et c'est Franck Dubos qui me le remet. Il faut être lucide, je sais où je suis. Eh bien, écoute cher Franck, dorénavant, les acteurs se battront pour que ce soit toi qui leur remette. Et ils se battront aussi, bientôt, pour te le remettre. Car franchement, dans ce monde effrayant où les vrais crétins narcissiques ont tellement confiance en eux, ton regard turquoise de mec qui sait d'où il vient, ben c'est une bénédiction.
Merci Guimette. Comme chaque semaine, votre chronique est à podcaster et à partager depuis le site ou l'application de France Inter. Et il en est de même pour toutes les émissions de la semaine. Une semaine qui a été menée battant par Claire Destacan à la réalisation. Fabrice Desmas, Stéphane Beaufils, Laurent Baudouin, Loïs Moreau et Gilles Gaillard à la technique. Au standard, ils ont relayé vos messages. Yaël, Alexandre, Yoni, Chiara, Dylan, Noé, Bénédicte et Emma. Cyrine Benyounès, Nathalie Romero, Lisiane Larbani et Antoine Poitras étaient à la préparation de l'émission et Valentine Chedebois a assuré la programmation musicale. Un immense merci pour votre soutien cette semaine. Dans un instant, on retourne devant poêle et casserole, mais on s'offre une parenthèse musicale avec Jungle. Back on 74, pas Jungle. Vous écoutez France Inter.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Eva Rock.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
C'est des graines de coriandre.
Des graines de coriandre. L'odeur de la coriandre sort bien.
Ça, c'est le bouillon, mais sans la viande. Toi, tu rajouteras la bonne viande dedans.
D'accord.
C'est comme si j'avais fait la molokhaya avec la viande dedans, tu vois.
J'ai compris.
J'ai pris le matrik, et après ça...
C'est quoi matrik ?
Matrik, c'est comme le bac ici, si tu veux. Je ne sais pas comprendre. C'était sérieux, quoi. Une fois que tu avais le matrik, tu pouvais rentrer à l'université.
Et pourquoi t'es pas rentré à l'université, toi ?
Et je voulais rentrer à l'université, faire pédiatre. Papa, une fille ne quitte pas la maison de son père. Et c'est au père de décider ce que la fille doit faire. Elle n'a pas d'ordre à me donner. Et finalement, je ne suis pas partie. Et je me suis mariée à 18 ans et demi.
C'est un extrait de votre documentaire, Jonas Parenté, le premier film de Grandma Project dont nous parlons ce matin. Jonas, vous nous invitez dans l'appartement de Nano, votre grand-mère d'origine égyptienne, surtout dans sa cuisine, sans doute sa pièce préférée. Et quel est le plat qu'elle concocte ?
Ça s'appelle la molokhaya.
Et c'est quoi exactement la molokhaya ? C'est un ragoût ?
Oui, c'est un ragoût. Pour résumer, je pourrais dire l'équivalent d'un bourguignon, mais égyptien. Donc la plante principale, c'est la corette, mais on l'appelle molokhaya. Et beaucoup d'épices, enfin beaucoup de parfums, disons, dans un jus avec la viande qui cuit longtemps.
Et on peut dire que la cuisine, c'est toute sa vie à votre grand-mère.
Ouais, c'est vraiment toute sa vie.
Et sa cuisine, ouais, la pièce en tant que telle, sa pièce préférée, elle a du mal à en sortir, j'imagine.
En fait, elle l'aime, elle l'adore, etc. Mais il y a aussi une notion de devoir. Honnêtement, elle le fait. Je ne sais pas si elle adore y être pour plaisir personnel. Ouais. C'est juste que son plaisir, c'est de donner. Et donc, parce que c'est de là qu'elle donne, on va dire que c'est son territoire. Quoi.
Il faut raconter, parce que dans la première partie du film, on la voit ouvrir son congélateur, parce qu'elle veut absolument vous nourrir, et donc vous donner tous les plats qu'elle a préparés. Est-ce qu'elle cuisine toujours autant ?
Elle cuisine toujours autant. J'ai 42 ans, elle en a bientôt 92, et elle continue à faire à manger pour toute la famille. Toute la famille, j'entends mes frères et sœurs, cousins, cousines. Hier, j'étais chez le boucher, et je lui dis, parce que je ne vais pas souvent chez le boucher, mais j'y vais, je lui dis, je suis le petit-fils de Madame Parenté. Il me dit, mais votre grand-mère, c'est plus qu'une cliente, quoi. C'est une amie de la famille. Et il me disait, en fait, c'est des femmes qu'on n'en fait plus. Elle demande, elle dit, voilà, je vais prendre ça pour mon petit-fils, lui. Ça, mettez-moi ça, mais sans la graisse, parce que ma petite-fille, elle adore ça. C'était hyper touchant.
Elle livre à domicile, votre grand-mère.
Elle livrait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle livrait. Non, mais... Elle prenait la voiture et elle faisait le tour des petits-enfants. Et elle livrait des thermos entiers, quoi, des sacs.
Moi, je me souviens de la première fois où on s'est rencontrés, elle était avec nous. Je pense qu'elle avait rempli le studio de radio de nourriture. On était quatre. Le studio était rempli. C'était incroyable. J'en garde un souvenir.
Bah, elle est où, dingue.
Laisse-la tranquille, la pauvre. J'espère qu'elle nous écoute quand même et on l'embrasse très fort. Est-ce que c'était la première fois que vous posiez des questions un peu personnelles à votre grand-mère avec une caméra à la main ?
Alors, pour le film Molokhaya, qui est donc le premier épisode de Grandma Project, non, parce que j'avais, comme je le disais tout à l'heure, commencé à la filmer et filmer mon autre grand-mère quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais quand même une idée, en fait, de ce que je pouvais lui faire raconter. Simplement, cette fois-là, j'y suis allé moins candidement, quoi. Je me suis dit, ok, je sais que je vais l'emmener sur ce terrain-là. Mais ceci dit, comme Mélodie, il y a tout un tas de choses qui sont sorties en plus que je n'avais pas prévu. Et c'est ça la beauté du documentaire.
Ouais, bien sûr. Mélodie Tafonseca, je ne sais pas si vous avez une réponse à la question qui suit, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans une cuisine ? Je parle de la pièce, pour que ça devienne un lieu de confidence. Vous savez, le nombre de soirées où on est entre amis, on finit tous à la cuisine, même si la cuisine est toute petite. Vous savez pourquoi ?
Je crois que c'est ça dépend des grands-mères, évidemment, mais dans mon cas, c'est un peu le lieu refuge. Cet endroit où on peut être seul, où on peut aussi décider d'accueillir. Mais aussi, on peut être seul. Il y a tout ce temps de préparation du « Ok, les petits-enfants arrivent. Je vais les accueillir. Et puis, je vais préparer tant de Tupperware. » Il y a un peu ce moment, je pense, de temps pour soi. Et puis après, le temps de la générosité qui vient juste après.
Jonas, est-ce que vous pourriez nous décrire le dernier plan de votre film ?
Oui, bien sûr. C'est ma grand-mère qui tient mon fils aîné, qui était bébé à l'époque, dans ses bras.
Ouais, et c'était important pour vous, parce que c'était aussi cette transmission-là que vous vouliez montrer à l'écran.
Oui, et puis surtout, comment dire, alors moi je venais d'être papa à ce moment-là, mais en fait c'est le fait de devenir papa qui m'a vraiment permis de rentrer pour de bon dans mon projet. Je tournais un petit peu autour, j'arrivais pas à finir ce premier film, et en fait c'est en ayant mon fils est née que j'ai trouvé la fin de ce film-là. Ouais. Et je me suis rendu compte, à travers les années, en cuisinant moi-même pour mes enfants, à quel point, en fait, je faisais le projet pour eux aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Guillemette ?
Alors, je suis en train de feuilleter le livre. Ouais. En fait, c'est extrêmement émouvant. Je voudrais juste dire que ça ne ressemble pas à un livre de recettes classique.
Merci beaucoup.
Voilà. Ouais. Et que c'est un beau livre et qu'il y a des photos. Donc, évidemment, des grands-mères avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, des photos d'époque, des photos qui respirent les années 70 ou les années 30. Et franchement, c'est d'une beauté.
Ouais. Et c'est un livre qu'on lit, en fait, plus qu'un recueil de recettes.
Ah ouais, là, je suis complètement... Mais,
d'ailleurs, je suis très contente de la remarque de Guillemette, parce que je me suis posé la question, est-ce que vous en avez fait aussi un projet féministe ? Parce que ça raconte quand même l'histoire de ces femmes, notamment dans les années 20, 30. Elles ont quasiment toutes connu la guerre d'une façon ou d'une autre, ou une vie très dure. C'était ça, l'objectif ? Ou en fait, vous avez été même pris par votre projet, pardon, Jonas ?
Alors, je pense que je n'utilisais pas le terme féministe au début. Presque, je pourrais dire que c'était plus un projet féminin. Dans le sens de, comme je savais que la génération de femmes qu'on allait mettre en avant dans ces films, effectivement, c'était des femmes de la moitié du XXe siècle. Donc, j'avais en tête qu'on allait raconter une sorte d'odyssée féminine au XXe siècle.
Ouais.
Mais je n'avais pas nécessairement conscience que ça avait une portée plus politique ou féministe. Ceci dit, quand on a refait une saison à laquelle... participer Mélodie. Là, il s'avère qu'il n'y avait que des réalisatrices. C'est un hasard, c'est un concours de circonstances. Mais du coup, d'avoir 7 films de réalisatrices sur leur grand-mère et ce que ça racontait de transmission de femme à femme, là, je me suis plus rendu compte qu'il y avait une portée féministe un peu plus forte. Et je suis hyper fier de ça, bien sûr.
Bien sûr. Alors moi, j'ai été très marquée par le film de Frankie Wallace qui filme Julia rescapée des camps et dont le matricule sur sa peau plissée par l'âge apparaît à l'écran et qui raconte son rapport à la nourriture dans les camps de concentration. C'est hyper poignant, mais en même temps, le fait avec un tel sourire, on est un peu partagé entre un tas d'émotions. Mais je voudrais qu'on écoute un extrait d'un autre film. Il est signé Mona Achache et elle filme sa grand-mère, qu'elle surnomme Mamie.
Alors allons-y. C'est un étouffe chrétien de première. Et quand j'en ai fait à mes enfants, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur que tu peux manger ?»
Pas tellement que tu ne nous en as jamais fait.
Bon.
Ça a l'air très appétissant.
J'en ai pas fait beaucoup.
Miam, miam, miam.
Et ben toi, tu sauras faire les Marienknödel.
Mais puisque tu ne sers pas à transmettre de la bonne cuisine, vu que tu n'en fais pas très bien,
ouais.
Tu sers à quoi ?
Moi, à rien.
Tu peux pas dire ça.
À strictement rien.
Ça te fait penser à quoi ?
Ça me fait penser à ce que mes enfants n'ont jamais aimé dans ma cuisine, que j'ai jamais pu faire. J'ai donc jamais fait de cuisine autrichienne, du tout, du tout, du tout.
Mamie, elle pense qu'à récupérer sa clope quand même, sa cigarette qu'elle fume dans la cuisine avec son verre de whisky. C'est ça qui lui importe. C'est ce que vous disiez, Greg, en fait. Il y a même des femmes qui n'aiment pas cuisiner, mais il y a une histoire à raconter derrière, quoi.
Il y a une histoire à raconter. Il y a ce côté de la cuisine comme un sanctuaire, de vraie générosité, c'est-à-dire que même si je réussis pas à le faire, je prends le temps d'essayer de le faire, et je prends le temps d'essayer de le faire pour ceux que j'aime. Donc on n'est que dans un espèce d'espace qui est bisounours positif. L'accent de votre grand-mère, moi mon beau-père est égyptien, cet accent il est tellement, il
c'est
fait
beau,
tellement voyager,
chante, ouais.
Et cette molochia ou la molo pour les intimes, c'est un plat qu'il faut vraiment découvrir, un peu acidulé, un peu citronné, c'est vraiment génialissime. La cuisine égyptienne, on la connaît pas assez et elle est vraiment exceptionnelle.
Je voudrais qu'on fasse un tour de table. Alors Greg, on vous a donné la parole tout à l'heure pour votre grand-mère et puis on va y revenir dans la suite de l'émission. Mais Olivier Pourriol, est-ce qu'il y a un plat qui se transmet dans votre famille ou qui raconte une histoire de votre famille?
Alors c'est assez cruel de me demander ça parce que j'ai très faim. J'ai sauté le petit déjeuner pour finir de cuisiner ma chronique, mais allons-y. Alors j'ai préparé l'émission avec ma mère hier. J'ai dit mais ton gâteau yaourt là, ton gâteau nanou, parce qu'elle c'est nanou, c'est pas nano, que tu fais pour tes petits enfants. Donc ça a sauté une génération. Aussi, la transmission c'est par grand-mère vers petits enfants. Et j'ai dit mais ça vient de ta mère. Elle me dit pas du tout. C'est une recette universelle, mais je l'ai améliorée. J'ai mis mes petits trucs dedans. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté non reproductible, en fait. Parce que même si on a la recette, on n'arrivera pas à la faire
exactement. On est totalement d'accord, évidemment.
Et il n'y a pas longtemps, on a retrouvé dans un carton des papiers de ma grand-mère maternelle, qui est morte quand j'avais 11 ans, que j'adorais, qui s'appelait Mémé Blanche. Et il y a une recette, alors il y a plein de lettres, il y a la dernière lettre qu'elle a écrite, etc. Des choses très émouvantes. Et au milieu, il y a une promesse de vie, il y a sa recette du couscous. Donc, je pense que je vais essayer de m'y mettre.
Mais oui, il n'aura jamais le goût de celui de votre grand-mère, mais c'est pas grave.
Non, mais celui de ma grand-mère, je n'ai jamais goûté.
Ah, vous ne l'avez pas goûté ?
Celui de ma mère est extraordinaire, mais celui de ma grand-mère, pour l'instant, il est sur une feuille de papier.
Alors, ben, vous êtes obligé de nous en faire un pour la prochaine fois. Sandra Colombo.
Alors, moi, j'ai donc, comme tout le monde, deux grands-parents. D'un côté, une grand-mère paternelle qui était italienne et une grand-mère maternelle qui était lituanienne. Donc, autant vous dire, c'est deux endroits où on mange beaucoup. Hein. Et moi, c'est plus qu'une recette. En fait, c'est un art de faire trop à manger pour les gens, en disant il faut finir. Ma grand-mère me disait tout le temps, il vaut mieux faire envie que pitié. Bon, oui. C'est très réussi, hein, ce qui concerne. Mais c'est vraiment ce truc de se mettre la rate au courbouillon pour quand les gens viennent manger, il faut avoir un 12 000 entrées, 52 plats, 3 desserts et peut-être éventuellement un petit deuxième plat au cas où on n'aurait pas assez à manger. Est-ce que quelqu'un veut du fromage ? Bref. Et le pire, c'est que moi, quand j'étais môme, je disais, ah, mais c'est trop.
Mais maintenant,
et je fais exactement et pareil.
Et est-ce que quand l'assiette est finie, on te dit, mais t'as rien mangé ?
Exactement. Ouais. Tu vas bien en reprendre ?
Ouais, bien sûr.
Non, c'est la troisième fois.
Christine, et vous, est-ce qu'il y a un plat que vous transmettez de génération en génération ?
Ah oui, alors c'est pas parce que vous êtes du Sud que je dis ça, mais la daube provençale été sujet de transmission de ma grand-mère qui le faisait d'instinct. De ma mère qui prenait le gros livre Kurnowski, qui regardait, qui disait « Oh non, je vais le faire comme d'habitude à ma manière parce que c'est y a trop de mots, c'est trop compliqué. » Moi, j'ai repris la daube et je rajoute des choses. Je mets beaucoup d'olives, les carottes qui n'ont pas forcément à voir avec la daube provençale.
Les carottes du Sud, oui, on est d'accord.
Bon. Et mes enfants... J'ai deux fils et mes deux fils font la daube. Alors, il y en a toujours un qui dit « Écoute, je l'ai presque réussi comme toi. » Et l'autre qui est cuisinier et qui fait la daube dans sa recette. Et c'est la daube de maman.
Ah ouais.
Donc, je pense que je suis une mère daube. J'en ai fait dimanche, d'ailleurs.
Une mère daube,
en disant,
vous avez
alors,
dit
alors, elle est comment en attendant les compliments, évidemment.
Il y a les mères veilleuses et les mères daubes.
Et vous, Guimette
Moi, j'ai aussi un carnet de recettes de ma grand-mère écrit à la main. Avec des pages jaunies magnifiques et tout, sauf que son écriture est absolument illisible, donc c'est quasiment, enfin, il faut un décrypteur pour faire ses recettes, mais ça donne un peu de suspense. Ouais. Hein. Non, autrement, moi ce que j'ai transmis, c'est faire la mayonnaise.
Ah mais c'est important.
Ah non mais la mayonnaise maison quoi, pitié, hein, donc faire la mayonnaise. Donc mes deux enfants savent faire une mayonnaise. À la cuillère en bois ou à la fourchette.
Voilà. Et à chaque fois qu'ils en mangent, ils pensent à vous comme ça.
Oui.
Non, mais je suis sérieuse.
Mais oui. Et même, c'est ça qui est mignon, quand ils vont dîner chez des amis et que tout d'un coup, ils voient un tube de mayo sur la table, ils disent, tu plaisantes. Donne-moi de la moutarde, un jaune d'œuf, je vais te faire une mayo maison. Enfin,
voilà. Et, ils ont pas...
et alors, du coup, ils sont très, très... Ouais. Ça,
ils disent que c'est vous qui leur avez donné la recette. Ah, oui, d'accord.
On n'y pense pas assez hein, comme cadeau, ça, quand on arrive chez des amis.
Mais oui.
Un pot de mayonnaise, c'est sympa, hein, franchement.
Mais franchement, oui.
Bien sûr.
Si elle est très, très bonne,
tu sais que tu fais très malin quand tu arrives chez des amis et que tu fais une mayo maison.
C'est sympa, je vous ai amené une mayonnaise. C'est cool.
Mélodie da Fonseca, est-ce que vous refaites la tortilla de votre grand-mère?
J'essaye.
Vous essayez ?
J'essaye et je m'améliore de plus en plus. Mais c'est, évidemment, c'est comme ça a été dit, c'est super dur de cuisiner comme nos grand-mères. Et surtout que, finalement, moi, elle ne m'a pas tant invité que ça à cuisiner avec elle.
Ouais.
Elle m'a toujours un peu laissée. Mon autre grand-mère aussi, qui est portugaise, j'étais toujours un petit peu en dehors de la cuisine. C'était, non, va faire autre chose. Nous, on gère. Et du coup, le court-métrage, ça a été... La première fois, et d'ailleurs la dernière, où j'ai cuisiné avec ma grand-mère.
Elle a un geste pour couper les pommes de terre qui est incroyable.
Elle va super vite.
Mais vraiment, il faut voir le film, parce que c'est très bien fait en plus, quoi. Elle va vite, mais c'est très bien fait. Je vais vous poser une question peut-être un peu compliquée, mais si vous deviez décrire votre grand-mère par une odeur et une saveur, vous diriez quoi ? En dehors de la tortilla, ne trichez pas.
J'allais dire l'odeur d'huile qui imbibe la cuisine, et puis l'appart et la maison, en même temps, après avoir cuisiné.
Huile de tournesol ou olive ?
Alors là, ça c'est le grand débat. Ça a été le débat pendant le court-métrage, après la sortie du livre, dans ma famille. Il y a la team huile de tournesol et huile d'olive.
Mais ta grand-mère ?
Ma grand-mère, c'est l'huile d'olive et c'est beaucoup d'huile d'olive.
Ah, oui,
beaucoup,
oui, oui.
Beaucoup.
Oui.
Beaucoup et ça se récupère.
Ah !
Ça se récupère et ça, c'est un petit peu bizarre, mais elle la récupère parce que de toute façon, elle fait des tortillas un peu à la chaîne tous les deux jours qu'elle met dans les Tupperware. Donc, on
elle livre. Et vous, Jonas, votre grand-mère Nano, en une odeur et une saveur, ce serait quoi ?
L'odeur, peut-être la fleur d'oranger. Mmh. Et la saveur, peut-être la fleur d'oranger aussi, en fait, parce que c'est une comment dire, elle en met à un dosage bien équilibré, et parfois on la remarque pas tout de suite dans certaines pâtisseries, etc., certains desserts, mais au final, ça donne une touche quand même très singulière.
Dans le livre, j'ai découvert votre compagne aussi, Jonas, Shirley. Ses origines, à elle, se partagent entre la Tunisie et la Pologne. Vous racontez qu'elle cuisine désormais avec vos enfants. Est-ce que c'est le résultat de ce projet aussi, le fait qu'elle passe en cuisine avec ses enfants ?
Je dirais que oui. Je pense qu'elle avait, quand on a commencé à avoir des enfants, donc on en a trois, c'est plutôt moi qui cuisinais, initialement. Depuis pas longtemps, elle a eu envie de cuisiner aussi ou de rééquilibrer les choses entre nous deux. Et c'est sûr que à travers le projet, elle a eu envie de transmettre ou d'aller chercher des recettes de ses grand-mères à elle. Donc elle en fait avec nos enfants. Elle y cuisine à plusieurs mains. Donc ça, c'était hyper émouvant de voir que, parce que comment dire, c'est une chose d'imaginer que des gens se procurent le livre et cuisinent dans leur famille. Mais c'était fou de voir que dans mon propre foyer, ça marchait en fait.
Et oui, et ça a changé quelque chose quand même dans votre vie, ce projet.
Totalement. Ah oui, ouais. Oui, ça c'est sûr. C'est, ouais. C'est peut-être le projet de toute ma vie, quoi. Et mon fils, par ailleurs, est né. Mes trois enfants adorent cuisiner. Ils ont très tôt commencé à râper des carottes, à couper, etc. Et l'aîné qui a 10 ans, il fait lui-même les borécas de ma grand-mère, qui est une recette vraiment magnifique.
Incroyable.
Et c'était, là franchement, j'aurais pu pleurer, quoi, la fois où il l'a fait.
Mélodie da Fonseca, est-ce que ça a changé quelque chose, vous, dans votre relation avec votre grand-mère, le fait de faire ce film ? Et quel est le regard de la famille et des proches quand vous leur avez montré ce film ?
Ouais, ça a complètement changé quelque chose en moi et je pense en ma grand-mère. C'était l'une des premières fois pour elle où elle a été autant mise en lumière. À la fin du court-métrage, je lui dis en rigolant, non mais tu vas te voir en grand, sur le grand écran, au ciné. Puis ce jour-là est arrivé.
Parce qu'il y a eu une projection des documentaires.
Exactement, il y a une projection des documentaires et elle me tenait si fort la main. Elle était si fière, si heureuse d'être... C'est un coup cette queen, cette star du jour. Et ça, c'était lui rendre énormément de dignité au vu de la vie qu'elle a eue, qui n'était pas simple.
Et le reste de la famille et de l'entourage, ça les a bouleversés aussi, autant que vous ?
Ça les a bouleversés et encore aujourd'hui, c'est un support de mémoire dans ma famille, ouais. Ce film-là. Maintenant, ma grand-mère, elle a perdu la parole. C'est un moment difficile pour elle. Et pour nous, on lui apporte le livre, on lui reparle du film et ça l'a beaucoup aidé ces dernières années à rester auprès de nous.
Mais d'où l'importance de ce projet. Pardon, je vous coupe, parce que d'abord, je vous sens émue. Et on l'est tous aussi autour de ce studio, enfin dans ce studio. Oui, Guillemette.
Je veux juste dire un truc.
Oui.
Ce qui est beau avec ce livre de recettes, c'est que si on l'achète et qu'on se met à faire ces recettes-là, ça veut dire qu'on va perpétuer aussi la mémoire de votre grand-mère, Eva, la mémoire de Suzanne, parce que là j'ai Suzanne sous les yeux, la mémoire de Nancy, la mémoire de... c'est vachement beau ça.
Ouais, voilà. C'est très beau. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui longuement. Grandma Project, c'est donc une série de films à découvrir sur grandmaproject.org. Évidemment, toutes les références sont à retrouver sur la page de l'émission. C'est désormais un livre de recettes publié chez Hachette Cuisine. Vous restez avec nous tous les deux, parce qu'on va continuer à parler de transmission grâce à vous, Olivier Pourriol.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Olivier, c'est à vous, je vous laisse la parole.
Moi je vais vous parler d'une transmission très particulière, l'empathie esthétique. Alors l'empathie, Eva, vous connaissez.
A priori c'est la spécialité maison de grand bien vous
fasse. L'empathie, c'est la spécialité maison. L'empathie, on dit généralement que c'est la capacité que nous avons de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, de comprendre ou de ressentir la même chose que cet autre. Mais l'empathie dont je vous parle aujourd'hui est un cas très particulier, car dans l'empathie esthétique, cet autre n'est pas forcément quelqu'un.
Comment ça ?
C'est un philosophe de l'art, il s'appelle Robert Fischer en allemand, qui est le premier en 1873 à avoir défini le terme d'empathie esthétique. Alors en allemand on dit Einfühlung, de Fühlen, qui veut dire sentir ou ressentir, et Ein, ça veut dire un, à l'intérieur d'eux. C'est la capacité que nous avons face à une chose de ressentir la même chose qu'elle. Mais les choses, allez-vous me dire, Eva, ne ressentent rien.
Oui, je sais pas, mais c'est ce que j'allais vous dire. Oui.
Voilà, et bien c'est vrai et c'est faux. Les choses ne ressentent peut-être rien, mais elles nous permettent de ressentir beaucoup. Quand on dit le ciel est triste ou la mer est en colère, on exprime un état d'âme. Alors apparemment, on fait que projeter son humeur sur le monde. Cet état d'âme, au fond, c'est le nôtre. Mais en réalité, on fait un peu plus que ça. On essaye de sentir l'humeur du ciel ou de la mer, de se mettre à leur place et d'entrer dans ce que le philosophe Henri Bergson appelait la vie intérieure des choses.
C'est quoi la vie intérieure des choses ?
Oui, bon, c'est vrai, c'est un peu bizarre, mais Flaubert, pour vous donner un exemple littéraire, raconte dans sa correspondance une expérience étonnante. Il dit « À force, quelquefois, de regarder un caillou, un animal, un tableau, je me suis senti y entrer. » Alors il écrit ça dans sa correspondance, et c'est bien une correspondance, c'est d'une correspondance qu'il parle, ou d'une résonance, et c'est ça l'empathie esthétique, la Einfühlung, à force de regarder quelque chose, devenir un peu cette chose, que ce soit un caillou, un animal, ou un tableau, entrer dedans, ou le laisser entrer en nous. Alors à présent, ce caillou, cet animal, ce tableau fait partie de nous, ou on fait partie de lui, c'est une expérience qui nous modifie pour toujours, ça nous a fait quelque chose.
Ouais, mais sauf qu'un mais un caillou et un tableau, c'est pas tout à fait la même chose. C'est en termes d'émotion, d'empathie.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas vrai. En fait, ce qui compte, c'est que dans les deux cas, ce n'est pas quelqu'un, mais quelque chose qui vous transmet une émotion. Là, on parle de couscous, vous voyez, de plat. Donc, ça peut être quelque chose qui vous transmet une émotion, mais c'est un peu des deux. Je vais vous prendre un exemple, ou plutôt vous raconter une histoire, ce sera plus simple. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de la personne qui m'a parlé pour la première fois de la Einfühlung. C'était un monsieur qui s'appelait Jean Lescure. Quand je l'ai connu, il avait 90 ans. Alors Jean Lescure, c'est pas n'importe qui. C'était un des fondateurs de l'Oulipo avec Raymond Queneau. Et ses amis, quand ils me disaient Raymond, c'était Queneau. Quand ils me disaient René, c'était Char. Quand ils me disaient Albert, c'était Camus. Quand ils disaient André, c'était Malraux. Vraiment, hein, c'était vraiment ses amis. Et il m'a raconté la chose suivante. Un jour, il était avec un ami en train de se promener au Champ de Mars, parce qu'il habitait juste à côté. Il a vu que cet ami avec qui il se promenait ne l'écoutait plus, mais regardait le ciel. Et alors, il a regardé lui aussi. Il me dit, j'ai rien vu de particulier, à part le ciel. Mais son ami lui a dit, tu as vu comme le ciel est beau aujourd'hui, là-bas ? Alors Jean, il a regardé, il m'a dit, il n'y avait rien de particulier, ce ciel. Et ce qu'il voyait, au fond, c'était l'émotion de son ami. Et quand il m'en a parlé, c'est ça qu'il voulait me transmettre. Et il m'en parlait au moment où lui-même était en train de perdre la vue. Il me dit que c'était une manière de regarder le ciel, une manière de regarder son ami qui regardait le ciel et qui le trouvait beau ce jour-là. Alors voilà, c'est ça la transmission esthétique, l'empathie esthétique. Je vous raconte qu'un ami m'a raconté qu'un de ses amis regardait le ciel et que ça lui faisait quelque chose. Quand il me l'a raconté, ça m'a fait quelque chose. J'ai jamais oublié. Je n'ai jamais vu ce ciel, mais je vous en parle. Et ce souvenir d'un ami d'amis, je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est ça, la transmission esthétique. Quelque chose fait quelque chose à quelqu'un, et quelqu'un vous en parle pour que ça vous fasse quelque chose.
Merci beaucoup, Olivier. C'était très beau. Votre chronique est à réécouter et à partager, évidemment, sur le site de France Inter. Mais comme on n'a pas assez parlé de nourriture, la parole est à Grégory Cohen, maintenant. Grégory, quelle est la recette du jour alors ? Celle de votre grand-mère ?
Celle de ma grand-mère, la seule qu'elle réussissait, attention, celle de maman Fanny, parce que de l'autre côté, Louise était une très bonne cuisinière aussi, mais c'était un couscous au beurre, ça n'a rien à voir. Donc là, on est sur les endives au jambon gratiné. Alors, il nous faut 4 endives bien blanches, aux pointes jaunes. Alors, je dis bien aux pointes jaunes, parce que si les extrémités sont vertes, les endives, elles risquent d'être amères. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui n'aiment pas les endives. Il nous faut 4 tranches de jambon blanc, 100 g d'émental râpé, 75 centilitres de lait entier, un temps pourtant de beurre et de farine, c'est-à-dire 50 g de beurre, 50 g de farine, une noix de beurre évidemment pour la cuisson des endives, du jus de citron, du sel, du poivre. Allez, on commence par couper le pied des endives, on les fait revenir à la poêle avec une noix de beurre à couvert pendant 10 minutes. On ajoute ensuite le filet de jus de citron. Alors ça va nous permettre de réduire l'amertume des endives et puis aussi de les caraméliser, ce qu'on va laisser faire pendant environ 5 minutes. Ensuite, on va préparer la béchamel, cette fameuse béchamel au moins aussi importante que la mayonnaise de guimette.
On est d'accord, ouais.
Et bien cette béchamel, pour la faire, dans une casserole, on va faire fondre 50 g de beurre. Et on va ajouter 50 g de farine. On va mélanger bien pour obtenir ce qu'on appelle un roux. Bravo, ouais. Un roux blanc. Et hors du feu, on va incorporer progressivement le lait, les 75 centilitres de lait entier, en fouettant pour éviter les grumeaux. Et dès que ça a été fait, on remet sur le feu, on fouette jusqu'à épaississement. On sale, on poivre et on ajoute de la muscade. Si on aime ça, moi j'adore. Ensuite, pour le montage du gratin, méga simple. Hein, on enroule chaque endive cuite dans une tranche de jambon blanc. On dispose dans un plat, évidemment à gratin. Si tu le mets dans un plat en plastique et que tu le mets au four, ça, ça risque d'être embêtant. Bodoni. Ensuite, on recouvre avec la béchamel. On parsame de 100 grammes d'emmental râpé. On préchauffe notre four à 200 degrés. On enfourne pendant 15 minutes. Et c'est sûr, cette recette est inratable. Dès que c'est doré et croustillant, eh ben on le sort. C'est fondant, ça croustille.
Voilà,
ça
fond, Olivier, à côté de vous, il a hyper faim. Évidemment, pour la recette, ouais, non, là, on se précipite sur votre côté Instagram.
Il est, pas même pas 11h. Ouais,
Grégory Cohen, off avec deux F, évidemment.
Deux F, oui, il faut le crier, autrement après, Grégory, il est vexé.
Alors, Grégory Cohen, off.
Avec deux F.
Ouais, ouais, ouais. Oh là là, mais c'est pas possible cette émission. Mais alors justement, avant de la clore, parce que vraiment vous m'avez fatigué, on va se retrouver avec Sandra Colombo dans un instant, mais voyage musical avec M, accompagné de Fatoumata Diawara, Toumani et Bala Diabaté. Et vous êtes sur France Inter, évidemment.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais je l'ai solitaire pour toucher ta magie, noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vis d'ici. Je suis Mali,
Bissansi, Mali, Bissansi.
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 Je suis Mali.
Je suis Mali, c'est le titre de cette chanson de M.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais...
France Inter.
Malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
C'est cela, oui, oui.
Grand bien vous fasse.
Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
J'ai tellement hâte de vous entendre, Sandra, que je vous laisse la parole tout de suite.
Je veux pas être mauvaise langue, Eva, mais vous n'aviez pas un thème plus bateau que « on transmet bien plus que des recettes derrière les fourneaux » Oh non, mais me regardez pas avec ces yeux de merlan frite, hein. Des recettes de cuisine familiale, tout le monde en a. Qui un couscous, qui des endives au jambon, qui des lasagnes. Alors, comme on ne se connaît pas, puisque d'habitude vous êtes moins blonde et vous vous appelez Ali, vous vous dites peut-être que je vais rester en carafe. Que nenni. Après m'être pressé le cerveau comme un citron, j'en arrive à la conclusion que, et attention, parce que je vais pas y aller avec le dos de la cuillère dans la disruption, j'en arrive à la conclusion que si certains habitent dans une famille top chef, pour d'autres, c'est cauchemar en cuisine. Bam ! Ah bah là, vous êtes comme deux ronflants devant cette analyse de haut vol. Au vent, bien sûr.
Oui.
La cuisine ne transmet pas que du cholestérol, ça transmet aussi des émotions, des valeurs et une façon de voir la vie.
Par exemple, feu ma grand-mère. Alors, bien sûr, hein, quand je dis feu, je ne veux pas dire qu'elle faisait brûler ses plats. Je veux juste signifier de manière chic qu'elle est en train de se composter. Donc, ma grand-mère m'a transmis, tout en cuisinant très bien, au demeurant, mais trop, beaucoup trop, stigmate des gens qui ont connu la guerre, la vraie. Pas celle que ce livre Joris du 55 est beurré comme un petit lu sur Instagram. Vous êtes cuisinière et vous faites même pas votre bouillon de volaille, mais c'est une honte. Eh, fermez-la bien fort, Joris du 55. Vous croyez que j'ai le temps de tuer des poules? Mais allez bien vous faire cuire le pardon, je digresse. Et en même temps, c'est pas si étrange dans une émission consacrée à la cuisine. Donc, ma grand-mère accompagnait toujours ses plats des meilleurs tips pour une vie sereine. Sandra, la vie est un combat permanent et difficile, surtout quand on est une femme. Alors ne pose pas tes coudes sur la table et plie ta serviette correctement. Tu m'étonnes que j'ai repris une petite tasse d'anxiété avec ma grosse part d'inquiétude. Force est de constater que la façon dont les êtres humains ont été nourris dans leurs jeunes années a une grande influence sur leur vie future. Tiens, par exemple, comment ça a pu se passer dans la famille Arnaud pour que Bernard n'ait à ce point-là pas le sens du partage? Eh bien, si ça se trouve, un jour, la cuisinière, car oui, chez les Arnaud, on est riche de père en fils, hein, donc il y avait des gens de maison. Je vous rappelle que pour devenir riche, il vaut mieux hériter de ses parents que traverser la rue tout seul. Donc, si ça se trouve, un jour, la cuisinière, appelons-la Colette, avait concocté un gratin de macaroni au petit Bernard. Oh, il s'en faisait toute une joie. Il jubilait devant son plat préféré. Je vais m'en faire péter la panse, ma coco. Car oui, c'est pas parce qu'on est un grand bourgeois qu'on ne peut pas être proche du petit personnel. Colette lui en sert une bonne grosse louche quand débarque Marie-Joseph, la maman de Bernard. Et là, ça part non pas au four, mais en eau de boudin. C'est le drame. Marie-Jo n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec cette énorme portion de vulgaire pâte. Oh ! Et de rage, elle la jette à la poubelle, congédie Colette, envoie son fils au coin pour qu'il réfléchisse à son comportement. Ah, bah ça, il a bien réfléchi le nanar, hein. Il s'est juré que plus jamais personne ne lui enlèverait le gratin de la bouche. Alors Bernard, si tu nous écoutes, arrête de bouder, tu n'as plus 5 ans et fais péter ton gratin. Non mais t'en as tellement que ni toi ni ta famille sur 12 générations ne pourra le terminer. Ça va être gâché alors que ça pourrait nourrir tellement de monde. Tu verras Bernard, le partage, c'est le secret pour réussir des grands plats.
Oh bravo Sandra et merci. Votre chronique, on la retrouve sur le site de France Inter. Votre spectacle Que faire des cons, c'est tous les mardis au soir au point virgule à 21h15. Merci. Exactement. Infiniment. Et puis merci Jonas Pariente et Mélodie da Fonseca de nous avoir régalé avec autant de recettes et surtout autant d'histoires. Merci chers amis du vendredi. Merci à tous les auditeurs et auditrices pour vos messages tout au long de la semaine. Lundi, vous retrouvez Ali Rebéi en grande forme après ses quelques jours de repos avec une émission extrêmement importante puisqu'il sera question du tabou des fausses couches.